Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux grands sujets ont été retenus pour vous, à savoir, le gouvernement congolais propose la révision de certains articles de la Constitution. Et dans notre deuxième et dernier thème, il sera question des nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise au Nord Kivu. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Marie Nkamboa, il est directeur des publications du journal Avenir, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Louis Niasse Kama, journaliste à Antenne A, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Jean-Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Et Ernest Moukouli, représentant des sites à Grand Lac dans la province orientale. Il est également responsable de l'ONG Média pour la paix et le développement. Ernest Moukouli, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
La presse de cette semaine a fait état de l'annonce par le gouvernement des projets de loi portant révision du cadre légal des élections en RDC et de la révision de certains articles de la Constitution. Aussi, la presse a attitré sur les affrontements au début de cette semaine entre le FRDC et l'armée rwandaise au Nord Kivu. Constitution Kabila défie Washington, titre la tempête des tropiques. C'est un véritable défi que Joseph Kabila vient de lancer à Washington, qui a récemment délégué ses émissaires à Kinshasa pour dire non à la révision ou à la violation de la Constitution. Pour Barack Obama et l'ONU, Kabila doit passer les flambeaux en 2016, conformément aux dispositions législatives de la RDC. Pour sa part, l'avenir informe que, par rapport à la Constitution, le gouvernement donne le ton. La révision de quelques articles de la Constitution est une réponse à l'interpellation du chef de l'État qui, lors de son discours sur l'état de la nation le 23 octobre 2013, avait demandé au Parlement et au gouvernement à mener une réflexion prospective sur les modes de scrutin proportionnel. Il avait également proposé d'entrevoir les modalités pratiques d'organiser les élections provinciales au suffrage universel indirect afin de minimiser les coûts des opérations électorales. Toujours à propos de la révision constitutionnelle, le Phare, de son côté, parle des passages en force pour la majorité. Après avoir longtemps tergiversé, la majorité présidentielle a finalement levé l'option tant controversée de la révision de la Constitution. C'est la seconde en l'espace de 3 ans, après celle de janvier 2011, dont les points saillants concernaient l'élection du président de la République à un tour unique au lieu des deux, comme c'était le cas dans les contextes constitutionnels adoptés par référendum en décembre 2005 et promulgué le 18 février 2006. Affrontement entre le FRDC et l'armée rwandaise dans la région Kibumba, s'est confiant au potentiel par téléphone, explique ce journal. Lambert Mende au Malanga a confirmé ces échanges de tirs. Des éléments de l'armée rwandaise ont traversé la frontière non loin de Kibumba autour de 3h30 et se sont emparés d'un militaire des FRDC, ce qui a provoqué une réaction de nos soldats en poste à Kibumba qui ont aussitôt ouvert les feux. La presse s'est aussi penchée sur la 20e édition de la Coupe du Monde de football qui a débuté ce jeudi au Brésil. Radiocapi.net rapporte que le Brésil a franchi non sans mal la première manche vers son 6e sacre mondial. La Seleção a battu la Croatie 3-1. Face à une Croatie bien décidée à sortir le grand jeu, le Brésil a eu un coup de pouce de l'arbitre japonais Nishimura.
Merci Guy Maté pour cette revue de presse. Jean-Louis Niasse Kama. Je rappelle que vous êtes journaliste Antenne A, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Alors un mot sur la 25e édition de la Coupe du Monde qui a débuté hier jeudi au Brésil.
Oui, bien, la fête a commencé. C'est quand même, c'est presque dans le domaine, c'est quand même fantastique d'avoir une Coupe du Monde au Brésil. Comme disait une consoeur à la RTNC, les Anglais ont inventé le foot, les Brésiliens l'ont perfectionné. On sait que c'est toute une religion chez eux et que bon, ça a bien commencé pour le Brésil, mais que j'ai pas trouvé flamboyant. Et puis, rappeler que ça fait 50 ans que la RDC a participé elle-même à sa première Coupe du Monde et à sa seule Coupe du Monde en matière de football et qu'elle court toujours derrière une deuxième participation. Mais bon, dire avec une fédération qui marche très mal parce que très mal gérée, sans politique, il n'y a pas de centre de formation, la direction technique ça sert à rien, et tous les directeurs fédéraux ainsi que sont le président de la fédération, ils sont plus là pour eux-mêmes que pour développer le foot. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose tant qu'on ne changera pas.
Jean-Marie Camboire. directeur des publications du journal Avenir. Vous voulez ajouter quelque chose? Un mot?
Oui, oui, juste un petit mot au regard de ce que j'ai suivi hier. Il est vrai que l'arbitre avait sifflé cette faute-là qu'il lui trouvait valable. Je ne trouve pas pourquoi l'on doit se mettre à commenter là-dessus, d'autant plus qu'il est seul maître sur terrain. Il est vrai que la faute était constatée, les images sont claires, et les pénalties étaient justifiées. Donc le fait pour lui d'avoir sifflé ces pénalties, ce n'est pas un cadeau qu'il accorderait au Brésil, d'autant plus que l'égalisation est intervenue par une action construite par l'équipe brésilienne, de même le dernier but qui est arrivé. Par rapport à la RDC, je dirais tout simplement que même si nous n'y participons pas, mais la RDC est présente à travers certains des Congolais, qui ont choisi des nationalités étrangères, notamment en Belgique.
Mais ça te fait plaisir aussi de voir l'équipe nationale participer à cette grande fête.
Ça fait plaisir, mais nous avons un long parcours. Il faut fournir beaucoup d'efforts afin de pouvoir arriver à ce stade. Aussi longtemps qu'il y a une certaine légèreté dans la gestion du sport congolais, on ne peut pas prétendre à grand-chose.
Ernest Moukouli, un mot sur cette 20e édition de la Coupe du Monde.
Oui, je crois bien la prestation de l'équipe croate m'a impressionné. Je crois bien aussi impressionné les footballeurs, les amoureux du ballon rond de la ville de Kisangani. Les Croates ont prouvé à la face du monde que le football, les ballons est rond, et ils ont tenu devant la redoutable formation brésilienne malgré cette défaite honorifique. Je pouvais aussi placer un mot en rapport avec la réalité de notre football. Je crois bien que le football, c'est un problème d'investissement, c'est un problème de programme, c'est un problème d'engagement. Quel est le budget aujourd'hui alloué en sport, en général, en football en particulier, au sein du gouvernement central? Tout part de là, et le reste, ça viendra après. On ne peut pas rêver aujourd'hui remporter la CAN ou la Coupe du Monde, 50 ans après notre première participation, comme l'a si bien dit Jean-Louis. Donc, nous avons encore du chemin à faire pour rattraper Cameroun et les autres pays qui participent à cette match mondiale de football.
Jean-Louis, rapidement, un bref commentaire sur les massacres de Mutarule au Sud-Kivu. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, s'est rendu sur place et s'est dit scandalisé par les atrocités qu'il a trouvées sur place.
Oui, c'est le problème à l'Est, ça peut aussi être dans d'autres régions de l'RDC. C'est vrai, on est un pays de minorité, mais on doit nécessairement apprendre à vivre ensemble. Ce fait d'être problème de minorité peut être une faiblesse, mais plutôt fait notre force en fait. C'est celle de nous accepter. Les spécialistes ont dit qu'avec la fin de la guerre, notamment avec le M23, les redditions des groupes des forces négatives, il se pose un véritable problème de coexistence entre les ethnies. Et je pense qu'il faut essayer de rapidement pour le gouvernement de panser les plaies, mais de voir ce problème. Pas seulement à chaud, mais à froid. Est-ce que ce qui s'est passé là-bas n'est pas un échantillon de ce qui peut se reproduire demain? Parce qu'il y a, sur le plan général, une inversion de force, on va vers une pacification. Mais maintenant, là où on avait l'habitude d'utiliser des armes pour se battre pour un petit terrain minier ou tout ça, on va peut-être revenir aux machettes pour une forêt de chenilles ou, je sais pas, une rivière de Dakar. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve les formules. Je ne sais pas s'il faut faire une commission de conciliation, réconciliation, vérité de réconciliation, mais pour permettre aux tribus, aux différentes ethnies de pouvoir coexister.
Jean-Marie Camboy, il faut une commission vérité réconciliation pour éviter ce genre d'atrocités à la langue.
Pas tellement, madame. Dans la mesure où, si conflit il y a, il faut entrer en profondeur pour savoir ce qui a véritablement causé le conflit. Il est vrai que le ministre était parti à Mutarule. Nous serions vraiment contents de savoir que voilà quelles sont les causes qui sont à la base.
Une enquête est en cours.
Quelles sont les mesures qui ont été prises et qu'est-ce qu'on pense pour l'avenir. Il est vrai qu'on peut facilement dire que c'était un conflit entre communautés, mais laisse-moi vous surprendre qu'en RDC, on ne connaît pas vraiment des conflits graves entre communautés. Des seuls petits conflits que l'on puisse avoir, c'est par rapport aux étangs de poissons et consorts, par rapport au terrain, des conflits qui sont d'ailleurs régis non seulement par la loi, mais aussi par nos us et coutumes. Donc, si,
mais il ne faut pas négliger ce genre de conflits, Jean-Marie Nkamboura, puisque parfois ça dégénère.
Il ne faut pas les négliger, raison pour laquelle je pense que les ministres allaient véritablement nous dire quelles sont les raisons qui sont à la base et quelles sont les mesures prises. D'autant plus qu'à un moment donné, nous n'avons pas donné crédit à des enquêtes. Combien d'enquêtes ont été diligentées et quels en sont effectivement les résultats?
Et Ernest Moukouli, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province orientale?
Oui, je voulais d'abord placer trois mots au sujet de pour qu'on évite ce genre de tuerie de trous. Je crois bien qu'il faut qu'on dote l'aspect civil et des moyens pour la formation des négociateurs locaux des conflits, aussi renforcer les services de renseignement de sécurité au niveau local. Si dans chaque 10 ménages, nous avons quelqu'un qui peut alerter l'État congolais de telles tueries, de telles manœuvres, ça peut aussi atténuer la situation. Et l'actualité à Kisangani reste dominée par des cas d'insécurité cette nuit. Il y a eu cambriolage qu'on qualifie de geste de sabotage dans le domicile d'un avocat qui est aussi activiste des droits de l'homme de l'ONG FOSIDEP. On a essayé de détruire juste certaines victoires, on n'a rien emporté, mais c'est vol à main armée. Déjà le week-end passé, une fillette de 3 ans a été assassinée, on peut le dire, de suite d'un cambriolage à la commune Tchopo. Et le gouvernement provincial dans ces différents conseils des ministres, ils ne cessent de décrier cette situation. Et ça essaie un peu d'inquiéter aussi l'opinion publique.
Premier thème de ce soir, le conseil des ministres a adopté lundi 9 juin 4 nouveaux projets de loi, dont celui relatif à la révision de certains articles de la Constitution. Les autres textes portent sur le processus électoral. Et selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ces réaménagements permettra de doter chaque niveau d'élection des dispositions légales particulières afin de faciliter leur organisation. Ce réaménagement, à en croire Lambert Mende, est le résultat d'une évaluation des élections de 2006 et 2011. On écoute Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais au micro de la RTNC dans cet extrait que nous propose Agathe Ponin.
Cette évaluation a mis à jour la nécessité de réaménager le cadre légal qui régit les élections dans notre pays. Il s'agit pour le gouvernement, d'une part, de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés lors de ces deux scrutins et d'autre part, de finaliser la décentralisation au moyen de l'organisation effective des élections de niveau local. Il paraît en effet indispensable d'élaborer des règles simples et adaptées aux moyens disponibles. Chaque niveau d'élection se voit ainsi doté de dispositions légales particulières qui régentent son organisation. L'opinion se souvient qu'une seule loi fixe aujourd'hui les conditions d'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Cette loi de 2006 a révélé dans son application des difficultés d'ordre divers.
Les réactions ne se sont pas fait attendre au lendemain de la publication de la décision gouvernementale. L'UDPS dit ne pas être surprise par l'annonce d'un tel projet, estime que si cela venait à se concrétiser, il ouvrirait ainsi la voie à une banalisation quasi permanente de la loi fondamentale du pays. On écoute Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS.
La constitution partout dans le monde a toujours été souvent contraignante. Nous devons faire un effort pour respecter la constitution. Trouver une loi électorale qui obéit à la constitution actuelle. C'est cet exercice-là qu'il faut faire. Sinon, c'est à tout moment, quand quelqu'un ne s'en lui plaît pas, il faut changer cette constitution.
Est-ce que l'UDPS est favorable à une révision éventuelle de quelques articles de la constitution ou l'UDPS ne veut pas du tout qu'on touche à aucun article, quelle que soit la raison?
Pour autant que tout cela n'est pas encore bien expliqué, nous attendons les dialogues et c'est au cours du dialogue qu'on verra la nécessité ou pas de revoir un certain nombre de de points sur la Constitution. Il ne faut pas qu'une seule personne se mette dans son coin et puis réviser parce que ça ne l'intéresse pas.
Réponse immédiate de la majorité présidentielle qui précise tout d'abord que le projet dont il est question ici ne touche pas toute la Constitution, mais seulement quelques articles jugés inadaptés. Toute autre interprétation relèverait tout simplement de la mauvaise foi et des procès d'intention, affirme Louzanga Chamandevou, porte-parole de la majorité présidentielle.
Il y a des articles, des dispositions dans cette Constitution qui ne s'adaptent plus avec l'évolution de notre pays. Il faut réviser. Et c'est la même Constitution qui a prévu le mécanisme de sa propre révision. Ce sont des projets de loi. Ça viendra ici au Parlement. Les représentants du peuple vont discuter, vont débattre. Et tout ça également, c'est constitutionnel.
Que répondriez-vous notamment à l'opposition qui continue de croire qu'un projet d'accorder un troisième mandat au président de la République est en cours, notamment à travers la révision de ses articles dont on ne connaît pas encore la teneur?
Ce sont des procès d'intention. Le moment venu, si réellement le problème se posait, eh bien, croyez-moi que la majorité s'assumera. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans la tête de la majorité, et moins encore dans la tête de l'autorité morale de la majorité présidentielle.
C'est un dossier signé Donna Madimba, Jean-Marie Nkamboa. Je rappelle que vous êtes directeur des publications au quotidien L'Avenir. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez-vous cette proposition du gouvernement congolais de pouvoir réviser certains articles de la Constitution?
Chez nous, nous nous sommes d'abord dit que la Constitution, qui est la loi des lois, a prévu ses propres mécanismes de révision. Aussi longtemps qu'on est dans ces schémas-là, nous ne voyons pas de problème. Des deux, le gouvernement ne veut pas des révisions pour révision. Il y a des raisons qui ont été avancées, notamment les faiblesses qui ont été observées, mais aussi la nécessité d'adapter notre système électoral au budget que nous avons, à l'argent que nous avons. Troisièmement, à l'avenir, on est aussi contre toute révision qui tiendrait compte de la personne, qui tiendrait compte de l'individu. Si révision doit y avoir, elle doit être impersonnelle, elle doit être impersonnelle, ne tenant pas compte des individus. En plus, nous devons aussi savoir qu'à un moment donné, la CENI était handicapée dans la mesure où elle n'avait pas assez de lois pouvant lui permettre d'organiser toutes les échéances du cycle électoral 2013-2016. Raison pour laquelle il fallait lui doter de ces lois pour qu'on n'ait plus de raisons à avancer. Aussi longtemps qu'elle n'aura pas ces lois, la CENI sera dans l'indisponibilité, dans la difficulté de nous présenter des élections au moment voulu. Quant à savoir si les élections, en prenant la révision constitutionnelle, on voudrait prolonger les mandats de l'actuel chef de l'État, on pense qu'on ne doit pas être trop pressé. Dans la mesure où ces quatre projets qui ont été adoptés par le Conseil des ministres extraordinaires, personne d'entre nous n'en connaît la teneur, en dépit des quelques raisons qui ont été avancées par la mère Mende. Un peu comme l'a dit Louzanga Chamandevou, attendons tous les débats. Lorsque le débat sera ouvert au Parlement, alors nous serons dans la mesure d'être fixés, de savoir qu'est-ce qui est effectivement prévu.
Alors certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi attendre l'approche des élections pour procéder à la révision de certains articles de la Constitution? Lambert Mende l'a dit dans le sang que ce réaménagement est le résultat de l'évolution des élections de 2006-2011. Pourquoi n'avoir pas proposé cette révision, par exemple, après les élections de 2011 ou en 2012?
Madame, vous savez, tout juste après les élections de 2011, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a des missions d'observation de l'Union européenne, les centres Carter et consorts, qui ont eu à formuler des recommandations. Parmi ces recommandations, il fallait d'abord refaire une nouvelle CENI. Après avoir refait la nouvelle CENI, il fallait maintenant s'occuper des lois qui sont censés réguler les échéances électorales dans notre pays. Alors, c'est la démarche dans laquelle on est en train d'effectuer. Donc, par rapport au temps, Je pense que l'État appartient à ceux qui les gèrent. Et au niveau de la CENI, il y a un chronogramme, il y a un calendrier. Si la CENI se plaint de dire que non, pourquoi le gouvernement m'a présenté, a présenté ces lois en retard, là on peut comprendre, dans la mesure où il n'y a que la CENI, elle seule, qui est censée organiser les élections dans notre pays et merci. Non pas une autre structure.
Jean-Louis Miasu Kama, je rappelle que vous êtes journaliste antenne à une télévision qui émet depuis Kinshasa. L'opposition aujourd'hui rejette et contre cette proposition du gouvernement de pouvoir réviser certains articles de la Constitution. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter?
On peut dire dans une certaine mesure non, mais une certaine mesure oui. Bon, non d'abord parce que la teneur des articles à réviser n'est pas connue. Mais oui parce que le gouvernement n'a pas pour elle peut-être donné encore des gages de respecter quand même l'esprit de la Constitution. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est que la Constitution doit aussi garantir la stabilité d'un pays. On peut se mettre à la changer à tout moment. La deuxième chose, ça veut dire que on évoque aussi les arguments évoqués pour raison de financement, qu'on ne peut pas bien organiser telle ou telle élection, etc. Bon, je pense que le plus important, c'est de réussir à faire des élections le mieux possible, quel que soit le coût. Parce que quand il faut mettre les moyens pour autre chose, ou on a bien trouvé les moyens pour 2011. La 90%, 95% venaient des caisses de l'État. Donc je pense que la question des moyens n'est pas vraiment le cas. Il y a un problème peut-être de transparence, de confiance, de dialogue qui manque. Comme on dit, ceux qui veulent, on a tous le devoir de bâtir notre pays, de en faire un pays fort, puissant. Mais la base d'abord, c'est le respect de la Constitution. Par exemple, même ils évoquent le changer pour un troisième mandat. Effectivement, par rapport à la Constitution, par rapport à l'esprit de la Constitution, il n'y a aucun motif pour un troisième mandat du chef de l'État. Il n'y a aucun motif valable pratiquement. Mais et maintenant, c'est par rapport à cette Constitution-là, elle même vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui nous rend fort, c'est le respect de nos lois. L'autre chose aussi, par rapport aux élections, le gouvernement tient compte de certaines expériences, mais il faut intégrer ce qu'a retenu la CENI, du déroulement des échéances électorales passées, ce que retient la société civile, la population. Parce que là aussi, c'est un problème. Parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant? On a l'impression, par exemple, on peut le reprocher au gouvernement, que comment a-t-on seulement organisé des élections d'en haut, mais pas d'en bas? Pas de proximité, de municipal, d'ailleurs, qui aurait pu même aider le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on a renforcer le pouvoir central, pendant qu'on a toutes les entités décentralisées qui doivent fonctionner, des provinces, des territoires, des communes, etc. Donc il y a cela. L'autre chose aussi, c'est par rapport le lien entre les électeurs et les élus. C'est-à-dire qu'on veut changer, par exemple, je sais pas, le monde
l'élection des députés provinciaux,
ainsi de suite. Je pense que le gouvernement peut faire une erreur en allant trop vite en besoin, en voulant trop vite changer. C'est peut-être d'aller petit à petit donner du temps. Et ce temps, c'est par défaut, par dizaines d'années, sur 20 ans peut-être qu'on peut changer.
Et donc pour vous estimez qu'on devrait garder le même mode de scrutin, c'est-à-dire...
Par exemple, les députés provinciaux, je pense qu'ils doivent être élus au suffrage direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de second degré, etc. Et même, à la limite, les gouverneurs, en attendant, il faut laisser quand même du temps à... Parce qu'on n'a pas fait des élections, par exemple, municipales ou de bourgmestre ou de... Mais comment voulez-vous qu'on puisse changer les choses? Commençons d'abord par compléter tous les arriérés électoraux ou trouvons une formule pour faire toutes les élections dans le délai jusqu'en 2016, et après, on verra.
Mais lorsqu'on sait que les élections locales vont commencer en 2015, et puis il y a le recensement qui doit se faire, vous pensez qu'en 2016, on aura les élections générales?
Bon, écoutez, on a fait... le dernier recensement remonte à 84-85. Bon, qu'on les fasse le recensement en 2015, ou qu'on le fasse en 2017-2018, il faut pas en faire un problème. Hein. S'il faut attendre, on fait d'abord les élections. Faut qu'on parle au plus pressé. Parce qu'il y a un problème. On parle d'ingérence. Mais on oublie que c'est la communauté internationale qui est venue à notre chevet pour qu'on arrive à des élections. Pour qu'on arrive à un système qui a une constitution, un référendum qu'ils ont financé, qui a été voté à 90%, et qui est censé, la constitution, garantir la stabilité. Ces questions, c'est que on dirait qu'on parle de l'autre côté du pouvoir d'ingérence quand ça va contre ses intérêts. Mais on oublie que nous sommes dans le même bateau avec l'opposition, la population, la société civile, le gouvernement et les autres institutions. Donc, à mon avis, c'est important que l'on puisse s'occuper des élections et laisser le temps au recensement quand un gouvernement après élu pourra le faire.
Ernest Moukouli, je rappelle que vous êtes représentant des sites à Grand Lac dans la province orientale et responsable de l'ONG Média pour la Paix et les Développements. Comment vous avez analysé cette proposition du gouvernement?
Merci Kelly. Je voulais d'abord commencer par porter un petit rectificatif. C'est l'ONG Média pour la Paix et la Démocratie par le Développement.
Merci.
Suivre les deux confrères, je me demande, faut-il être réaliste, respectueux des lois ou garantir la cohésion nationale face à cette guerre de plus dans cette question de révision de la Constitution? Le débat a toujours été entre les partisans du caractère intouchable des dispositions constitutionnelles qu'on appelle pour certains verrouillés et des concitoyens, beaucoup de Congolais d'ailleurs, qui pensent que les circonstances qui peuvent déterminer bien sûr l'aménagement de n'importe quel article de la Constitution. Mais Kelly, le ministre Mende l'a si bien dit, finaliser les processus de la décentralisation, c'est une très bonne intention. Ce qui devait se concrétiser avant même de passer à cette révision constitutionnelle. Or, beaucoup de lois ont été votées pour aider à matérialiser la décentralisation, prennent encore les pieds à certains niveaux des institutions nationales. Moi, je crois que cette question de révision de la Constitution, si on s'en tient aux réactions, par exemple, des MLC qu'on n'a pas diffuser l'extrait ou de l'INC, on se rend compte que l'opposition politique exprime des craintes, bien que les précisions des articles devant faire l'objet de cette révision de constitution demeurent encore un mythe. Mais ces craintes doivent être prises en considération. Si la majorité présidentielle parle des procès d'intention, mais les critiques de l'opposition reposeraient des positions que, selon la majorité, qui sont gratuites. Mais l'expérience des élections de novembre 2011 pousse effectivement la majorité présidentielle à pouvoir avoir plus un égard un peu réservé par rapport à cette intention. Mais nous devons placer encore confiance à la majorité actuelle pour voir ce que cette révision, concrètement, ça nous réserve. Mais, à mon avis, Kelly, le dépôt de cette révision, en ce moment même où la classe politique attend plutôt le gouvernement de cohésion nationale, je crois bien que c'est la facture à payer pour la prochaine majorité présidentielle.
Jean-Marie Kamwa, la crainte exprimée par l'opposition aujourd'hui est-elle fondée?
Madame Kelly, je peux dire que la crainte est fondée, mais c'est un peu d'une façon ou d'une manière intempestive. D'abord, il faut remonter aux concertations nationales que beaucoup de membres de l'opposition avaient boycottées. Lors des concertations nationales, les participants ont formulé des recommandations. Parmi les recommandations, il y avait notamment la révision du mode de scrutin, il y avait la proposition du recensement, ainsi de suite, la composition du gouvernement, ainsi de suite. Il y avait toutes ces propositions-là. Et d'ailleurs, le chef de l'État, lors de son mot de clôture, lors de son mot d'appropriation des résolutions de concertation, avait même donné quelques pistes. Et nous constatons que le gouvernement n'a fait que répondre, n'a fait que donner suite déjà aux propositions données par le chef de l'État afin de pouvoir réfléchir.
Et la majorité, comme l'a dit Jean-Louis,
J'arrive. Donc le gouvernement n'a fait que donner suite déjà aux propositions du chef de l'État qui reflétaient la position des participants à ces forums. Et lorsqu'on nous dit que c'est un avis de la majorité, mais n'oubliez pas que nous sommes dirigés, nous sommes gérés par un gouvernement issu de la majorité. Et lorsqu'on est de l'opposition, en principe, on doit attendre son tour. Si d'abord on n'a pas été aux concertations, que voulez-vous
même
faire?
Même lorsqu'on viole la Constitution, l'opposition doit attendre son tour, etc.
Jusque-là, Madame Kelly, on ne peut pas parler de la violation de la Constitution. Le gouvernement n'a fait que proposer 4 projets de loi qu'il soumet d'ailleurs, qu'il soumet à l'examen du Parlement. Donc, si les parlements trouvent les bien fondés de les adopter, tant mieux. Et s'ils sont rejetés, tant mieux.
Et vous pensez qu'ils seront rejetés lorsqu'on sait que c'est la majorité qui
constitue cette
assemblée ou ce parlement?
C'est un gouvernement de la majorité. Et le gouvernement et le parlement est aussi dominé par la majorité, même si l'opposition est aussi représentée. Les projets de loi sont motivés. Je pense que lors des débats, les motivations des 10 projets de loi seront données et à l'occasion, tous les députés pourront se prononcer en âme et conscience.
Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là, parce que certains observateurs estiment qu'on commence à pouvoir proposer ces 4 projets de loi et à la fin, le gouvernement pourrait proposer même la révision de l'article 220.
Nous évoluons dans un contexte non seulement dominé par les conseils ou ce que Jean-Louis appelait d'injonction de la communauté internationale. Nous évoluons dans un contexte. Je ne pense pas que le contexte soit favorable afin de déverrouiller un article qui est indéboulonnable.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis?
Oui, disons, c'est comme si vous parliez d'aller à petit feu, à petit pas. C'est-à-dire qu'on commence par quelques articles à reviser, puis arriver à l'article 220, etc. Le problème fondamental, c'est d'aller dans les fondements même de la loi fondamentale de la Constitution. C'est-à-dire que les piliers, ce sont justement ces verrous-là. Ce qui va faire, et puis ça contribue, parce que ça il faut comprendre, ça contribue même à la crédibilité de notre pays. C'est-à-dire que quand on aura un processus électoral qui fonctionne, avec une démocratie qui fonctionne, même les autres pays nous verront différemment. Notre choc d'État sera vu différemment. Aujourd'hui, le système politique aux États-Unis fait que le chef d'État américain est peut-être le politicien le plus puissant au monde. Et c'est un système qui tient depuis plus de presque 200 ans, 250 ans. Il y a eu des révisions de la Constitution, il y a eu 27 amendements. Et un des derniers amendements, c'était le fait que le président ne pouvait plus avoir 3 mandats comme les Roosevelt ont eu, comme d'autres ont eu, mais 2 mandats. C'est arrivé juste avant que Kennedy n'arrive au pouvoir. Et il le respecte. En France aussi, je crois, c'était limité, puis on a limité. Donc, il est important que la Constitution pour laquelle le peuple qu'on a été appelé à voter, et qu'il a voté massivement, soit respecté. Parce que, après, on parle d'ingérence, on veut bien, ainsi de suite, mais c'est très simplement. C'est-à-dire que même le voisin ne doit pas vous s'amêler de ce qui se passe dans votre maison. Mais quand il voit que votre comportement est peu sérieux, il peut arriver à développer une certaine attitude.
Ernest Moukouli, est-ce que vous pensez que la majorité irait jusqu'à toucher l'article 220? C'est la crainte de beaucoup d'observateurs.
Si on s'en tient aux déclarations officielles de tous les lieutenants de la majorité, je dirais non. Mais si la surprise de 2011 pourrait arriver, bon, on laisse l'avenir nous dire plus.
Merci Ernest Moukouli, deuxième et dernier terme de ce soir. Accrochage entre militaires congolais et rwandais à Kabagana. Les militaires congolais et rwandais se sont affrontés mercredi 11 juin et jeudi 12 juin sur la colline de Kanyesheja dans la localité de Kabagana 2 en territoire de Nyiragongo à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. Des sources concordantes rapportent que les forces armées de la RDC ont riposté à une provocation des forces pour la défense du Rwanda qui auraient tenté de s'installer sur une colline de Kanyesheja sur le territoire congolais. Ces affrontements ont déjà fait au moins 4 morts côté congolais et un nombre indéterminé des victimes côté rwandais, toujours selon des sources militaires. Et au sujet de ces affrontements entre militaires congolais et rwandais, le gouvernement congolais parle d'un acte délibéré de provocation des autorités rwandaises, excluant toute hypothèse d'un acte de bavure de la part des militaires rwandais. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement qui s'est confié à Radio Okapi, dément le bilan des 5 soldats congolais tués dans ces affrontements, bilan qu'il qualifie de fantaisiste, distribué à la volée par les autorités militaires rwandaises. Lambert Mende, au téléphone d'Innocent Olenga.
Nous pensons à un acte délibéré de provocation. On dirait que certains responsables à Kigali sont sérieusement contrariés par la perspective de la réussite de l'opération de désarmement volontaire des FDLR. C'est comme si on leur enlevait le prétexte béni qui leur a toujours servi à venir pêcher les fruits de leur pillage en République démocratique du Congo et qu'ils veulent empêcher absolument que ceci ne réussisse. J'en veux aussi pour preuve les incidents qu'ils ont provoqués avec la délégation du gouvernement qui devait visiter ramener les anciens combattants du M23 à la propre demande du gouvernement rwandais, notre délégation a été renvoyée sans ménagement de la frontière, alors que Muganda accueillait le même type de délégation. Nous en voulons pour preuve également le fait qu'ils ont abattu le caporal Baïkilo en public et se sont arrangés pour que les soldats congolais voient cela. Donc, provocation sur provocation, ce n'est pas une bavure, c'est quelque chose d'intelligent, de pensé, et nous voulons vraiment que ça s'arrête.
Jean-Louis Miasekama, journaliste antenne à une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, comment vous analysez cette situation? Provocation, comme l'a dit Lambert Mende?
Provocation, oui, on peut le dire. Mais en fait, c'est moi, j'irais même plus loin. C'est une constance. Comment? Avant, on avait le CNDP, le RCD, soutenu par le Rwanda. Après, CNDP, mouvement militaire. Après, on a eu c'était le CNDP. Et puis après, c'est le M23. Mais maintenant, tous ces remparts, tous ces, on peut dire, ces vassaux n'existent plus. On est face à face. Et je pense que même quand on se regarde en chien de faïence, et donc, il faut trouver d'autres casus belli pour relancer la guerre, relancer le pillage, relancer, parce que, en fait, l'Est, la région d'ailleurs là, est en train en fait de se, pas, vous n'allez pas replâtrer tout ça, mais se changer, se transformer, c'est-à-dire que les groupes armés sont en train une à une de prendre, de baisser les armes, de déposer les armes, de signer leur reddition, ainsi de suite, et on revient pratiquement une pacification générale voulue aussi par la communauté internationale, parce que c'est un endroit magnifique déjà pour faire les affaires, pour faire l'économie et tout ça. Et effectivement, il y a le problème du Rwanda, c'est que, comme disait un analyste, un chercheur du CNRS, elle a bâti son régime sur une dictature féroce à l'intérieur, mais la guerre à l'extérieur. Et quand la guerre cesse, c'est un système d'exploitation économique qui s'arrête et qui va
et
finir par
étrangler. Et donc, il faut trouver d'autres stratégies.
Oui, il faut trouver d'autres stratégies. Comment faire durer, pas le plaisir, mais durer la guerre. Et puis, l'autre côté, l'éventualité qu'on termine avec le fameux casus des FDLR, qu'on en finisse peut-être avec l'aide de la communauté internationale, c'est une mauvaise perspective pour Kigali.
Jean-Marie Nkamboa, peut-on dire que le décor est planté pour une nouvelle guerre entre la RDC et le Rwanda? Les deux pays s'accusent mutuellement.
Pas tellement, madame. D'abord, pour répondre à votre question, moi j'aimais beaucoup d'hypothèses, parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi la réaction du Rwanda, disons, la provocation du Rwanda devait intervenir pendant ces moments. Pendant un moment où les Congolais sont chassés brutalement de Brazzaville. Pendant un moment où l'Angola s'est préparé aussi à liquider ces Congolais. À un moment où le contexte intérieur est presque explosif, avec un calendrier qui a été publié, et les envoyés spéciaux qui ont exigé un calendrier global. Maintenant, moi, en combinant tous ces facteurs-là, moi, je pense que à un moment donné, le Rwanda risque d'être utilisé comme un fou du roi, capable à tout faire pourvu que la RDC s'affaisse, se décourage, n'organise rien, ne fasse rien qui puisse profiter à sa population, pleurniche toujours. Je me rends de plus en plus
compte que vous pensez que le Rwanda s'est réutilisé par les grandes puissances ou la communauté internationale
pour
déstabiliser la RDC?
Je n'affirme pas, mais je suis en train de réfléchir à haute voix. Je me dis que non, le Rwanda doit vraiment être pour quelque chose, doit vraiment être cette bête noire là utilisée afin de compliquer la vie aux Congolais. Chaque fois que le Congo veut faire quelque chose de bon, chaque fois que nos paramètres se stabilisent, nos fondamentaux sont sur place, c'est à ce moment-là que le Rwanda surgit afin de nous désorganiser. Madame, n'oubliez pas, parce que Lambert Mende a aussi parlé de la fameuse question des FDLR. Madame, depuis toujours, le Rwanda n'a jamais voulu accepter que les FDLR soient rapatriés chez lui. En aucun jour il ne l'acceptera. Alors, pour ne pas permettre que les HCR et la RDC parviennent à cette solution, il vous met déjà en difficulté. Comme ça, vous n'aurez plus le courage de tenter à faire pénétrer quelques œufs de la loi.
Merci Jean-Marie Kamboua, Ernest Moukouli. On n'a plus beaucoup de temps, alors vous allez nous répondre brièvement. Est-ce que on peut faire un lien entre la reddition des FDLR et cette attaque du Rwanda?
Je pense on ne pourra pas vraiment, si on se réfère à tout ce qui s'est passé par le passé. L'armée rwandaise est arrivée jusqu'ici à Kisangani, mais jamais Kigali l'avait avoué qu'il y a de ces hommes dans cette ville. Et à mon avis, moi je voulais que nous puissions plutôt se référer aux propos de la vice-présidente du Parlement allemand, qui invite vraiment les deux pays à pouvoir accorder de l'importance à un avenir favorable entre ces deux pays après une période noire et violente comme on l'a paraphrasé. C'est pourquoi les deux nations, les deux dirigeants, nos deux gouvernements, franchement, ils doivent veiller plus à l'avenir de leur population que de servir de leur politique qui a déjà dit son dernier mot, et que les problèmes des Grands Lacs, avec ce que Jean-Louis venait de le dire, les replâtrages de la région, ça doit être favorisé par les deux pays. De simples incidents comme ça, on peut recourir à l'arme lourde. À mon avis, ça cache quelque chose.
Jean-Louis, ça cacherait quelque chose, vous pensez, comme Ernest Moukouli?
Oui, il faut aussi savoir une autre chose, c'est qu'on ne le dit pas, c'est qu'en fait, le Rwanda, sur le plan diplomatique, est en perte de vitesse. Elle est obligée de retrouver des nouveaux alliés, de trouver des nouveaux repères. Parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est un peu, c'est-à-dire, comme on disait, la RDC retrouve un peu certains fondamentaux, va se mettre à décoller économiquement, et va redevenir le centre de l'Afrique, le centre de l'Afrique centrale, d'où il y a donc la plateforme du décollage économique de toute l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Et ce n'est plus cette hégémonie-là ou ces leviers-là que peut avoir le Rwanda ou l'Ouganda. Donc il y a une inversion en fait on peut dire à un moment des pôles. Le pôle était comme Grand Lac, Afrique centrale était de ce côté-là. Maintenant, ça revient vers Kinshasa, vers Luanda, et donc c'est en fait comme on dirait les derniers gémissements d'une bête est en train de mourir.
Voilà, Jean-Marie Kamboua, ça sera aussi votre conclusion. La RDC, le gouvernement congolais, compte sur l'arbitrage de la CIRGL, de l'Union africaine et des Nations unies dans ce dossier avec le Rwanda. Vous pensez que la solution sortirait de là?
Non, avant d'y arriver, moi je vais tout simplement paraphraser Jean-Louis pour dire que le Rwanda est pratiquement en perte de vitesse au niveau de la communauté internationale. Hier, c'était les États-Unis qui se plaignaient par rapport au non-respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est Londres qui s'en inquiète. Hier, c'était l'Afrique du Sud qui avait expulsé des diplomates qui sont soupçonnés dans la mort des opposants. Aujourd'hui, le Rwanda avait utilisé la guerre en RDC afin de cajoler une fois de plus cette fameuse communauté internationale. Malheureusement, cette solution-là ne tiendra plus debout parce que tout le monde maintenant regarde d'un vrai œil tout ce qui se passe et n'est pas prêt à cautionner les manœuvres de Kigali.
Merci Jean-Marie Kamboua, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci chers confrères d'avoir accepté l'invitation. Guy Maté était à la réalisation, la mise en onde est assurée par héritier Sidiakala. Au micro Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.